beaucoup Serge. Bienvenue à chacun et à chacune. Bon dia, parce que je crois qu'il y a plusieurs personnes qui nous viennent du Portugal ou d'ailleurs, mais qui sont lusophones. Soyez les bienvenus. Donc, je suis Thierry Cuny, le pasteur de cette église, et mon épouse Fatih qui est ici. Voilà, nous avons 4 enfants, comme ça vous le savez, 4 jeunes adultes, et nous sommes franco-burkinabais. Je suis français, elle vient du Burkina Faso. S'il y a quoi que ce soit à la fin du culte, je suis disponible, nous sommes disponibles pour vous accueillir, mais il y a toujours 2 personnes qui sont là pour prier. Donc sentez-vous chez vous à la maison, ne vous sentez pas, surtout pas jugé parce que ce n'est pas le cas, mais sentez-vous accueillis, bien aimés. Nous sommes là pour vous rendre service aussi si nous le pouvons, et vous bénir de la part de Dieu, parce que sa bénédiction est la meilleure. La mienne est encore limitée. Voilà, bienvenue aux autres, à ceux qui sont là depuis, hein. Vous êtes tous les bienvenus cordialement en tout cas. Et puis pensons à tous ceux qui sont malades parmi nous, à ceux qui ont été opérés peut-être. Vous n'avez peut-être pas toutes les données, mais pensons à toutes ces personnes dans la prière. Remettons tous ceux qui voyagent aussi, qui sont en mission. Serge en parlera certainement après. Ayons une pensée pour eux dans les pays où ils vont, parce qu'ils vont servir le Seigneur dans des pays qui parfois sont difficiles. Serge a évoqué effectivement que le message d'aujourd'hui était un peu plus compliqué, mais pas compliqué vraiment, mais défiant. Parce qu'en fait, j'aimerais faire une rétrospective des 3 messages qui ont été donnés par le 5 janvier par Daniel Arnold, le 12 janvier par Marc Lutti et le 19 janvier par Gérard Pella. Et moi, le 26 février, j'essaie de faire une boucle de tout ça. Et Marc sourit, il a raison, parce que c'est un vrai défi. Non, ça ne va pas durer autant que leur message, parce que sinon on en a pour 3 heures, en fait. Mais je vous invite et je vous encourage personnellement, puisque maintenant Marc avait fait la démarche lorsqu'il a prêché en disant « mais j'ai pu écouter le message de Daniel Arnold et c'était génial, je me suis senti dans le mouvement, au courant de ce qui se vit ». Et nous sommes en début d'année, le premier mois de l'année, qui dans quelques jours est déjà bientôt terminé, ça va vite. Et il me semble que de temps à autre, c'est ce que je disais à l'équipe de ce matin quand on priait, qu'il est bon d'essayer de se rappeler un petit peu ce qui a été dit, pour ne pas oublier le message d'avant. Je me disais, ce matin je vais faire un test, qu'est-ce que Daniel Arnold a dit le 5 janvier? Ok? Ok, voilà, merci. La traversée du Jourdain, mais encore! Parce qu'il a prêché 39 minutes, donc il n'a pas 39 minutes fait traverser les 2 millions de personnes qui ont traversé le Jourdain. Ça peut prendre plus que 39 minutes, j'imagine, mais je pense qu'il a dit d'autres choses. Et c'est un peu ça que j'aimerais partager avec vous. Il a parlé d'un titre qui est dit « Le bonheur au bout des pieds ». Le bonheur au bout des pieds. C'est génial, parce qu'il n'est pas loin, en fait. Il est juste au bout des pieds. Il a parlé de cette traversée du Jourdain, oui, de ce peuple, plus de 2 millions de personnes qui ont traversé le Jourdain à sec. Il a dit que c'était un récit de miracle extraordinaire qui permet à Israël de traverser à sec un Jourdain qui était plein, puisqu'on dit même qu'il débordait à cette période. Il dit aussi que le livre de Josué est un livre exceptionnel parce qu'il décrit une génération exceptionnelle. Et j'ai envie de nous dire ce matin, nous sommes une chapelle exceptionnelle. Je crois qu'il y a beaucoup de lusophones à droite. Ils disent beaucoup « Amen », ils ont raison. Exceptionnel, non pas parce qu'on est meilleur, non pas parce qu'on le mérite, mais parce qu'on a un Dieu exceptionnel. Et c'est pour ça que je le dis. On n'est pas plus méritoire que les autres, on n'est pas meilleur que les autres, mais on a un Dieu puissant, qui est capable de renverser toute situation, de séparer même les eaux, vous imaginez? J'aimerais laisser aussi une petite image. Hier, nous sommes allés avec mon épouse voir notre fille Jemima qui joue au handball, qui joue en première ligue, qui essaye de passer en Ligue B, donc c'est un bon niveau. Et puis d'un seul coup, en partant depuis Vevey, vous savez, la Riviera, c'est génial. C'est beau, c'est magnifique, les étoiles dans le ciel. Et vous arrivez sur Yverdon, c'est le brouillard complet. Mais alors d'un seul coup, hein, on a passé la frontière, on n'avait pas le visa, mais alors direct, une couche, mais impressionnante. Impressionnant, hein. D'un seul coup, on s'est tous mis à allumer les phares, les anti-brouillards et tout. C'était incroyable. Et puis on est allé jusqu'à Yverdon. Et puis le retour, la même chose. On rentre dans le brouillard et quand on arrive à la hauteur où on doit sortir pour aller sur Vevey, donc à partir de Lausanne, là en haut, tac, le brouillard s'en va. Et je me dis, parfois nos vies sont comme ça aussi. On entre parfois dans des brouillards. On ne sait pas trop. Ça a commencé, oui, mais on ne sait pas où ça va se terminer, quoi. Et là, j'aimerais vous encourager, comme la traversée du Jourdain pour ce peuple. Faites confiance à Dieu. Et je crois que, comme toute traversée, comme tout passage dans nos vies, toute difficulté, toute épreuve, si nous mettons l'arche devant, si nous mettons la présence de Dieu devant, je crois que le brouillard va se dissiper. J'en suis convaincu. Il ne va pas rester. Il ne restera pas. Seulement, c'est Dieu qui doit être devant, pas nous. C'est bien Dieu. Mettre cette arche devant, cette présence de Dieu, cette intimité dans laquelle nous grandissons les uns et les autres, dans une confiance certaine que Dieu va agir. Que Dieu connaît nos situations mieux que nous-mêmes et qu'il sait le chemin par lequel lui va emprunter pour nous faire amener à la victoire. On aimerait parfois passer par tel ou tel chemin, on pense que c'est le meilleur, mais lui, il en a prévu un autre qui est bien plus bon que celui-là. C'est le « the best », comme disent nos enfants, le meilleur, le super, le bon chemin qui nous amène à la vie. Il a dit aussi que dans le livre de Josué, on raconte cette période où Israël est entré dans la terre promise, promesse que Dieu avait faite et a conquis cette terre promise. C'est la conquête. On raconte des choses uniques qui se sont passées une seule fois et il a énuméré plusieurs choses. Ces événements se sont produits une seule fois et ces récits nous parlent de Dieu lui-même et de ses révélations et de ce qu'il a fait et de ce qu'il est. Important de se souvenir de ce que Dieu a fait. Parce que ça détermine aussi notre présent et notre futur. Ce qu'il a été, il l'est et il le sera encore. Fidèle, ça c'est sûr. Ça, je peux vous le confirmer. Et puis, il a parlé aussi des... Vous savez, quand le peuple a traversé, l'arche était dans le Jourdain. Et puis, il a parlé de mémoriaux. Quand le peuple est sorti, ils ont posé 12 pierres, à l'intérieur comme à l'extérieur, sur la berge. Quels sont nos mémoriaux? Quels sont nos souvenirs de l'action de Dieu, de la présence de Dieu, de l'intimité où Dieu a fait la différence dans nos vies, où il nous a accordé la victoire ici, où il nous a accordé de traverser le brouillard sans défaillir, tout en étant confiant que Dieu connaissait cette situation et qu'il allait l'amener à bien. Quels sont nos souvenirs de l'action de Dieu? Il est bon de poser des pierres et de nous rappeler de ce que Dieu a fait, non seulement dans nos vies, mais aussi dans la vie des uns et des autres autour de nous, nos familles, nos enfants, nos parents, nos collègues, nos voisins, nos changements de situation professionnelle, nos adaptations dans telle ou telle église, nos adaptations dans tel ou tel pays, lorsque Dieu nous envoie en mission ou ailleurs. Gardons ces souvenirs comme des pierres dans notre vie, dans notre cœur, des pierres qui scellent l'action de Dieu, la fidélité, la provision, la protection de Dieu. Souvent on oublie, auditeurs oublieux que nous sommes parfois. On aimerait déjà, quand une bénédiction est arrivée, on aimerait déjà la seconde. Mais gardons celle où nous avons vu vraiment Dieu à l'œuvre. Ou même dans l'épreuve, nous l'avons vu travailler dans nos vies, faire remonter des choses qui avaient besoin d'être guéries, restaurées, qui avaient besoin de passer par le crible parfois, pour que ça soit purifié, l'or purifié, il faut enlever les scories. Ayons des mémoriaux dans notre vie pour nous souvenir de l'action de Dieu, de l'intervention de Dieu ici et là. Les chrétiens, a dit Daniel, sont des gens de l'histoire. Nous devons nous rappeler des événements. Parce qu'il a dit aussi qu'il y a un rapport avec les choses qui se sont passées, parce qu'elles sont en lien avec celles qui vont venir. Le passé est important parce qu'il nous permet de vivre aujourd'hui. Il a dit aussi que Dieu est avec son peuple. Ne dites pas amen, ce n'est pas la peine. Dieu veut bénir ceux qui sont fidèles. Dieu veut bénir ceux qui sont fidèles. À gauche, allez-y, hein, n'hésitez pas. Il faut relever le défi de ce droite. Et au centre, soyez dans la sérénité. Dieu veut bénir ceux qui sont fidèles. N'entendez pas par fidélité ceux qui sont parfaits, parce que ce n'est pas ça que Dieu dit. Mais ceux qui s'attachent à lui, ceux qui croient en lui, ceux qui, même quand ils passent par l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort, ils voient Dieu avec eux. Il est toujours là, il l'a dit, il le promet, il restera fidèle à sa parole et à ses promesses. Attachons-nous à ses promesses. Ouh là là, ça passe vite. Daniel a relevé quelque chose qui est très important. Il a dit que la foi est fondamentale dans cette histoire. La foi est un élément que je relèverai de ce qu'il nous a partagé au travers du chapitre 3 et 4 de Josué, pour ceux qui veulent bien sûr relire ce livre qui est dans l'Ancien Testament. C'est important. La foi est fondamentale dans la traversée du Jourdain. La foi est, est quelque chose dans lequel il a dit nous devons grandir, croître, nous affermir, nous fortifier. Il a rappelé que nous sommes sauvés par la foi, pas par autre chose, par la foi. Par la foi. Dieu a ouvert le chemin, c'est lui qui a ouvert le Jourdain. Ce n'est pas les hommes qui ont ouvert le Jourdain, c'est Dieu. Les hommes ont obéi à ce que Dieu a dit, mais c'est Dieu qui a ouvert. Ce qui est important pour nous, c'est de grandir dans la foi. C'est Dieu qui donne la victoire aussi par la suite à Jéricho. C'est de s'attacher à Jésus-Christ lui-même. Que nous puissions croître dans la foi. Nous sommes sauvés par la foi, je l'ai dit. La foi, c'est suivre Jésus. C'est suivre un être qui s'appelle Jésus. C'est ça la foi, suivre le Christ, Jésus. Et il a rappelé aussi cette phrase, quelle est la différence entre la méditation orientale et la méditation chrétienne ? J'ai beaucoup aimé. La première nous demande de faire le vide et la seconde nous demande de nous remplir, de nous laisser remplir plutôt, c'est plus juste. Alors je vous invite à un remplissage pendant 7 semaines. 7 semaines, nous avons une formation, plutôt un parcours qui n'est pas une formation, où vous pouvez chacun vous inscrire, qui commencera donc le 5 février, chaque mercredi, les 3 de février, 5, 12 et 19, et les 4 de mars, où nous allons nous ouvrir à l'action de Dieu, au Saint-Esprit, où nous allons remettre en place les bases fondamentales de la foi. Vous qui êtes là ce matin, même si vous n'êtes pas membre de l'Église, vous êtes les bienvenus. Il y a encore quelques flyers ici. Je vous encourage à vous inscrire. Ce n'est pas pour remplir la salle, mais c'est justement pour vous laisser remplir vous, personnellement. Et nous voulons le vivre en communauté, en tant qu'Église, pas en tant que seulement individu, mais en tant que corps de Christ, comme nous sommes ce matin en train de louer et adorer Dieu et d'écouter sa parole, ensemble, comme un corps uni. Voilà, je passe au second message. Ouais, c'est bon, ça va aller. Le combat. Marc Luthi, merci beaucoup Marc pour cette parole. Comme je remercie aussi Daniel Arnold d'avoir nous avoir encouragés à grandir dans la foi, à passer aussi à traverser nos Jourdains qui sont parfois pleins. Mais Dieu est devant, est avec nous. Il fraye le chemin, il ouvre la voie pour nous. Il y a des combats dans nos vies, nous a dit Marc. Et c'est vrai, il y a des combats. Notre sœur a prié tout à l'heure. Déposer un fardeau, c'est aussi un combat parfois. Et des fois, on a besoin même d'un compagnon de route ou d'une compagnon de route, pas seulement un homme, mais une femme, pour pouvoir déposer. Je me rappelle cette image qu'a évoquée Priscille dans ce livre d'Alain Auderset, qui est un ami, lorsque cet homme qui vient avec son gros baluchon, mais énorme, énorme, énorme sac, c'est pas le petit camelback ou le petit sac à dos, hein, de montagne, c'est le truc énorme. Et il monte à la croix, il dépose son sac, il regarde la croix, et au moment où il repart, il reprend son sac, il redescend la colline. C'est une belle image parfois de ce que nous vivons. Nous déposons et nous reprenons aussitôt. Alors que Christ a payé pour tout. Ne reprenez pas ce que vous avez déposé, mais déposez-le à Jésus-Christ, seul, à la croix. Parce qu'il a tout pris à la croix. Il a pris tout notre péché. Et il a vaincu la mort. Il y aura d'autres encore, d'autres combats, nous a dit Marc. Tout au long de notre existence sur cette terre, il y aura des combats. Le défi, c'est d'entrer dans les bons combats et pas dans les faux combats, parce que là, on va se fatiguer. Et surtout de laisser Dieu combattre aussi, tout en sachant bien utiliser les armes que Dieu nous donne dans ce texte d'Éphésiens 6. Chapitre 6 d'Éphésiens, les versets 10 à 20, l'armure du chrétien. Rappel du contenu de tous les messages que Marc a donné. Il en a donné 7 une fois par mois pendant 7 mois. C'est important. Il a dit vivre une vie nouvelle en mettant l'accent sur différents aspects. Mener une vie digne de notre vocation en tant que membre de l'Église, qui est le corps de Christ. Nous sommes le corps du Christ. Il en est la tête, le chef. Manifester notre unité. Marc a mis un accent profond et important sur l'unité. Et je me dis que ces 7 soirées, c'est une manière aussi de nous unir ensemble pour proclamer l'œuvre de Dieu dans nos vies, pour proclamer sa victoire au milieu de nous, en accueillant tous ceux qui viennent. Je suis réjoui ce matin de voir de nouvelles têtes. Je ne vous parle pas de tête dans le sens où vous ne représentez pas une tête, mais une nouvelle personne. Bienvenue vraiment. Je suis très content parce que ça veut dire que Dieu est en train de toucher, renouveler, rafraîchir notre communauté et qu'il touche des êtres aussi dans ce monde. Rien n'est perdu. On a l'impression que le christianisme se dévalue, mais je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, l'ennemi se déploie, mais la puissance de Dieu est bien au-dessus. Mener une vie digne de notre vocation, mettre l'accent sur notre unité. L'accent est mis fortement sur ce point, une unité fraternelle, une communion. Nous nous intéressons les uns aux autres, nous nous impliquons dans la vie de l'un ou de l'autre. Un petit café, un coup de téléphone, un SMS, une prière, toutes ces choses font qu'on s'intéresse à l'autre et qu'on n'est pas juste là pour se serrer la main, se dire bonjour, comment tu vas, au revoir. Que Dieu te bénisse. C'est bien aussi. Mais je crois qu'on peut aller beaucoup plus loin dans la relation. Nous sommes aussi invités à ne plus vivre comme les non-croyants, mais à renoncer à toute forme d'impureté, à mener une vie qui honore Dieu, une vie sainte, une vie digne de le magnifier, une vie digne de l'adorer et de le louer. Alors c'est un processus, c'est un chemin, bien sûr, mais entrons dans ce chemin, la voie qui est un peu étroite, dans laquelle nous allons vivre des grâces particulières, mais aussi là où Dieu va travailler nos cœurs, nous rendre, je ne dirais pas meilleurs, parce que j'ai envie de dire qu'il va beaucoup plus loin que ça. Il purifie nos vies, il purifie et sanctifie nos cœurs pour que nous puissions l'adorer avec des mains pures. Invités à nous soumettre les uns aux autres dans les différents domaines de notre vie, je vous encourage aussi à dynamiser. Nous sommes en train de rafraîchir un peu notre structure, notre manière de vivre, nos réunions, nos rencontres, pour qu'il y ait du temps pour vivre les choses ensemble, mais surtout, surtout, un appel à l'extérieur. Je vous rappelle notre slogan, une église, un cœur, un quartier. Notre quartier n'est pas là, il est à l'extérieur. Ça, c'est un bout du quartier. Mais notre vie est pour ceux qui sont dehors, qui ne connaissent pas le Christ, qui meurent chaque jour sans le rencontrer, sans le connaître et sans hériter de cette vie éternelle. Et puis il a dit aussi dans son avant-dernier message, qui fait un lien avec bien sûr Daniel Arnold, soyez remplis à tout moment, soyez remplis, soyez constamment, toujours à nouveau remplis de l'Esprit. Et un des fruits de l'Esprit, alors qu'il y a la reconnaissance, la louange, l'adoration, l'unité, c'est le fait d'être soumis les uns aux autres. Et je crois beaucoup à cela. Non pas dans une soumission bête et méchante ou dans une soumission contrôlée, mais simplement dans la fluidité d'une relation où on se fait confiance les uns aux autres et chacun travaille, sert Dieu là où il l'a appelé. Et je le vis avec plusieurs parmi vous et je m'en réjouis parce que pour moi, c'est là où il y a la vie qui coule. C'est là où la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit peut vraiment couler au milieu de nous lorsqu'il y a une intersoumission volontaire les uns avec les autres. Moi-même qui suis pasteur, je suis soumis à mes responsables qui sont dans certains dicastères. Je ne suis pas le responsable de tous les dicastères et je me soumets aussi à la volonté du responsable de tel dicastère. Je trouve que c'est normal. Il n'y a rien de sensationnel en le faisant. Cette soumission nous invite, nous sommes invités à la vivre dans la famille, bien sûr, dans le couple, avec nos enfants, mais aussi dans nos lieux de travail, dans nos lieux où nous nous formons, à l'école, à la fac, à l'uni, partout où nous sommes. Nous sommes appelés à vivre cette soumission, soumission aux autorités aussi. Bien sûr, tout cela ne peut être que vécu par le soutien et l'assistance de Dieu. Toutes ces choses ne sont pas innées dans le cœur de l'homme. Jérémie a dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est mauvais. Et il est mauvais. Et c'est vrai. Mais on voit aussi que des hommes et des femmes qui ont goûté à la grâce de Dieu peuvent aussi avoir des cœurs qui sont changés de pierre en chair. Et c'est merveilleux de pouvoir contempler des hommes et des femmes au milieu de nous qui sont passés par la nouvelle naissance, qui ont été touchés par la grâce de Dieu. Soyez-en bénis. Nous prions pour cela avec le conseil. Nous prions pour chacun de vous. Nous relevons la tête en disant, nous crions pour que Dieu puisse vraiment se manifester au travers de notre chapelle et au travers de vos vies personnelles. Là où vous êtes plantés, là où vous êtes en mission dans vos lieux de travail, que ce soit dans le monde séculier ou dans un monde professionnel et spirituel comme moi, mais Dieu bénit. Et nous croyons que vous êtes aussi des témoins de son amour et de son évangile. Il y aurait tellement de choses à dire encore. Marc a dit tellement de choses. Je l'ai écouté, je pense, 4 ou 5 fois et je n'ai pas encore acquis toutes les subtilités de son message, mais j'ai trouvé excellent. Notre combat n'est pas contre les êtres humains, il a été rappelé. Il y a eu un coup d'état céleste. Nous devons prendre au sérieux ces puissances. Le coup d'état céleste est que le diable, avec un tiers des anges, a été précipité. Et il est là, et il est toujours puissant, mais il n'est pas le tout puissant. C'est ça qu'il faut. Il ne faut pas lui donner quelque chose qu'il n'a pas. On parle toujours du royaume de Satan. Satan n'a pas de royaume, je suis désolé, la Bible ne parle pas de royaume. On nous dit qu'il est le prince du monde, mais il n'a pas de royaume. Seul le royaume de Dieu, oui, parce que nous avons un roi, et c'est même le roi des rois. Lui a un royaume, et il est roi. L'autre est plutôt le prince du monde, c'est vrai, c'est ce qu'on respire, c'est le prince de l'air, on le voit autour de nous, ce qu'on vit. Il a une certaine puissance, il ne faut pas la minimiser. Mais on ne fait pas un culte à Satan, on fait un culte à Dieu, on rend un culte à notre Dieu. Et on rappelle que nous devons bien sûr le prendre au sérieux, mais que Christ a vaincu à la croix toutes ses puissances, toutes ses dominations, tout ce qui a été cité dans ce chapitre 6, Dieu les a vaincus. Mais ces puissances disposent d'un réel pouvoir. Dans ce monde des ténèbres, il y a une structure, il nous a été rappelé, une hiérarchie, différents niveaux. Ils sont dominateurs des ténèbres ici-bas, ils exercent des pouvoirs, mais des pouvoirs usurpés, j'ai beaucoup aimé, des pouvoirs usurpés. En réalité, ils sont vaincus, mais ils ne savent pas vaincus, nous a dit Marc. Et ils continuent à se débattre, comme quelqu'un qui ne sait pas nager dans l'eau. Ils continuent à se débattre jusqu'au moment où le Christ, dans sa gloire, reviendra chercher son peuple, son Église. L'ennemi est rusé, il manœuvre et il intervient de façon à nous tromper. Il n'aime pas se montrer tel qu'il est. Il se cache et il se déguise, et même, nous dit la parole de Dieu, en ange de lumière parfois. Et je vous recite ce texte que j'avais déjà dit, mais pour les nouveaux, vous l'entendrez comme ça de la part de Jean-Paul Perrin, tiré du journal de Morges, mai 2014. Les outils du diable. Il a été dénoncé que le diable allait se retirer des affaires et mettre en vente ses outils. Le jour dit, ils sont tous exposés. Orgueil, cupidité, malice, jalousie, fourberie. Chacun marqué à son prix. Il y avait aussi un outil tout usé, à un prix très supérieur, le découragement. Interrogé, le diable précise qu'il valait cher, même très cher, car c'était le plus efficace. D'autant qu'on n'en se méfiait pas, le prix fixé pour le découragement était si élevé qu'il n'a jamais été vendu. Le diable en est toujours propriétaire et il continue à l'utiliser. C'est parce que Marc nous a aussi dit la carte de visite de notre ennemi, c'est le découragement. Ne nous laissons pas décourager. C'est très difficile de remonter la pente quand on a été découragé et quand c'est une succession de découragements. Je vous encourage moi-même à utiliser la parole de Dieu. Donc Marc a utilisé, bien sûr, il a énuméré toutes les armes qui sont dans ce texte où je vous encourage à relire Éphésiens 6, versets 10 à 20. Mais je mettrai l'accent sur la parole de Dieu parce que je trouve que Marc a aussi mis l'accent dessus et je crois que c'est important. La parole de Dieu, l'épée de l'esprit, c'est une courte épée pour le combat rapproché. Ce n'est pas un combat à distance, hein. C'est vraiment le petit glaive. C'est la parole de Dieu. La parole est comparée à une épée plus acérée qu'une épée à double tranchant. Elle permet de séparer le vrai du faux, la vérité du mensonge. Nous devons apprendre à l'utiliser. Nous devons faire des progrès même pour bien la manier, la manipuler. C'est une arme que Dieu met dans nos mains et que Jésus lui-même a employée lors de ce temps au désert où il a été tenté. Celui qui est la parole vivante, lorsqu'il est confronté à l'ennemi, qu'est-ce qu'il emploie comme arme ? La parole. Lui-même qui est parole vivante, faite chair, il est écrit, et il répète aussi, il est aussi écrit. Cette parole est très importante. Il faut la connaître, il faut la mâcher, la ruminer, la digérer, parce qu'elle fait reculer l'ennemi. Paul ensuite ajoute un accent sur la prière et je ne vous dirai pas combien je crois que c'est un élément très important, la prière. Et quand je parle de prière, je parle de jeûne, je parle aussi d'intercession, de combat. Je mets tout ça dans la notion et dans le groupement de la prière. La prière nous est dit que c'est ce qui assure une bonne communication. Nous restons en relation avec Dieu dans la prière. Nous nous laissons conduire par lui dans la prière. Il nous a été rappelé de le faire avec beaucoup de vigilance et de constance. La prière fait partie du combat. Elle n'est pas l'arme, elle n'est pas une arme de l'armure, mais elle fait partie du combat. Revêtons donc cette armure et ne nous contentons pas simplement de bien la connaître dans ses moindres détails, mais utilisons-la à bon escient. Et je me rappelle ce que Claire Lise avait lu sur ce pasteur qui dit « Moi, tous les jours, je revais l'armure. » Tous les jours. Et j'en arrive au troisième. Je suis encore bon, hein. 7 semaines pour nous ouvrir au Saint-Esprit. Ça, c'est vraiment quelque chose où je suis tellement confiant, tellement confiant. Je vous fais un petit coup de pub. Nous sommes à peu près une cinquantaine d'inscrits avec l'équipe, ce qui est bien. Mais comme dirait un de mes collègues, on peut faire mieux. Alors, je vous invite. Il y a encore quelques flyers, mais moi, je me tiendrai à disposition aussi. Marc est là aussi avec Clairelys. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir nous voir. On peut vous inscrire même par email, par internet. Je peux vous laisser mon adresse email tout à l'heure. À ceux qui sont là pour la première fois, je peux vous laisser ma carte aussi. Comme ça, on pourra prendre contact ensemble. Acte 19, 1 à 7. Tantélie nous a lu ce texte avec une voix pertinente, j'ai trouvé, quand j'ai réécouté le message. Bravo Tantélie, tu as une belle élocution. Ça fait plaisir à t'écouter quand tu lis un texte biblique. J'espère pouvoir t'écouter quand tu prêches aussi. On va t'écouter pendant ces 7 semaines. Alors, il nous est dit dans ce texte que l'apôtre Paul arrive à Éphèse en l'an 53. Ça, c'est Gérard Pella qui a donc donné ce message. Et il a la joie de rencontrer dans cette grande ville païenne consacrée à la déesse Artémis à l'époque, une petite équipe de 12 disciples qui sont déjà dans la foi. Ils sont déjà dans la foi. Mais comme il est dit, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais Paul leur pose cette question particulière dans ce texte. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Question importante, intéressante, pertinente. Le Saint-Esprit, ils répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Comment aurions-nous pu le recevoir, puisqu'on n'a même pas entendu parler ? Alors après, ils posent des questions, mais vous avez reçu quel baptême ? Le baptême de Jean, vous savez, c'est le baptême de repentance. Où nous nous repentons de nos péchés, de notre vie d'avant. Vous avez peut-être entendu parler de Jésus, mais vous n'avez peut-être pas entendu parler de la bonne nouvelle. Peut-être qu'au milieu de nous, des gens ont entendu parler de Jésus, comme j'ai entendu parler de Jésus, Jésus dans l'histoire, au collège.
Oui.
Mais est-ce que vous avez entendu parler du ressuscité ? De ce Jésus dont même la croix et le tombeau n'ont pas pu retenir ? De celui qui a porté sur lui toute notre misère, toute notre fragilité, tout ce qui nous préoccupait, tout ce qui faisait que notre vie était lourde. Il a même porté sur lui la mort. Mais il n'est pas simplement mort, il est ressuscité. Et il a promis à ses disciples que lorsqu'il repartirait et retournerait à la droite du Père, il enverrait son esprit. Et cet esprit, lorsqu'il vient en nous, il nous accorde une vie nouvelle. V-I-E majuscule. Pas une petite vie nouvelle, mais une vie nouvelle. Pas seulement le pardon, mais la vie nouvelle par l'Esprit. Une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons fait un shift, un switch. Nous ne sommes plus les mêmes. C'est comme si on avait retourné la pièce. Une nouvelle création pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Alors Paul propose aux disciples d'Éphèse de recevoir le baptême au nom de Jésus, parce qu'ils avaient été baptisés du baptême de Jean. Il leur impose les mains et le Saint-Esprit vient sur eux. Quelque chose se passe, l'Esprit vient. Et dans le texte, cela se constate par différentes choses. D'abord, ils parlent en langue, une autre langue qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. C'est-à-dire, ils disent des choses qu'ils ne comprennent pas, mais qui sont suscitées par l'Esprit. Ce matin, Priscille a pris la parole, elle n'a pas parlé dans une autre langue, puisqu'elle a parlé en français, on a bien compris ce qu'elle a dit. Mais Dieu a suscité en elle une image, une perception de quelque chose. Et j'aimerais vous dire que dans ce lieu, nous sommes ouverts à ce que les dons qui nous ont été donnés soient partagés pour le bien commun de l'Église, pour son édification, pour sa croissance. Mais nous le faisons avec sagesse. Donc quand il y a un président, on vient le voir et on lui soumet ce qu'on a reçu, simplement pour être dans la sérénité et puis que les choses se fassent d'une manière fluide et claire. Et du coup, ça édifie. Ce matin, je ne sais pas si vous avez été édifié par ce que Priscille a dit. Moi, je l'ai été, en tout cas personnellement. Merci à ceux qui osent prendre la parole et de le faire avec beaucoup de crainte, mais aussi de le faire en vue non pas de se promouvoir, mais simplement d'édifier le corps, de le faire grandir. C'est le but. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? C'est une bonne question que Paul pose aux Éphésiens qu'il nous pose ce matin. Est-ce que vous avez accueilli le Saint-Esprit ? Est-ce que votre vie est passée par cette vie nouvelle ? Cette vie par l'Esprit ? Est-ce que vous prenez cette vie au sérieux ? Est-ce que notre et votre manière de vivre démontre cette vie par l'Esprit ? Je vais vous raconter sa petite métaphore que j'ai beaucoup aimée. Il a pris deux exemples. Donc Gérard Pelat pour nous parler de cette vie de l'esprit. Soyez remplis. Soyez remplis de l'esprit, sous-entendu, soyez continuellement aujourd'hui, demain et après-demain. Pas juste aujourd'hui ou hier, mais continuellement. Il a parlé de cette métaphore de la chambre à air. Il est venu, non pas avec une chambre à air de camion, heureusement, parce que là on aurait été embêté, mais de son vélo. J'espère qu'il n'a pas démonté la roue du vélo pour cela. Et il a quand même dit que nos vies, elles sont un peu comme ça. Moi, je vois, dans la cave, on a un vélo de notre fille, elle s'en sert jamais, donc tout va bien. Mais je peux vous dire que tous les mois, hop, c'est dégonflé. Hein. Pneu arrière avant, pas utilisé. Alors à chaque fois, je le pompe parce que ça me fait du bien, un peu d'exercice, mais ça fait rien de plus puisqu'elle s'en sert pas. Mais si vous avez déjà essayé de rouler avec un vélo où les pneus sont complètement à plat, c'est plus difficile. Ça demande une énergie. Et puis, je suis pas sûr qu'on ait une vraie dextérité pour conduire. En général, le vélo, il fait un peu comme ça parce que, du coup, il faut maintenir le guidon d'une manière beaucoup plus solide. Et il a rappelé que nos vies étaient souvent comme ça. Elles se dégonflent aussi. On a besoin de cette vie de l'esprit continuelle. Aujourd'hui, on a besoin que cette vie de l'esprit s'exprime au milieu de nous, qu'elle s'exprime en nous. Et que, au travers de cette chambre à air, on a parfois, quand on laisse aller un peu les choses, on est un peu comme elle, on se dégonfle. Et quand on se dégonfle, on n'a plus cet appétit, on n'a plus cette envie, on n'a plus cette passion, on n'a plus ce désir intérieur de connecter avec Dieu et de connecter les uns avec les autres et avec ceux du dehors. Donc, ne laissons pas nos chambres à air spirituelles se dégonfler, mais au contraire, chaque jour, dans l'intimité avec Dieu, dans cette relation, dans la lecture de sa parole. Là, je peux vous garantir que vous regonflez non seulement la roue avant, mais même la roue arrière, les deux. Puis après, il a donné cet exemple du poulet. Bon, moi, l'exemple que j'ai, c'est quand je le mets à rôtir. Mais là, c'était autre chose. Il a dit que c'est vrai que le poulet, avec l'aigle, le poulet, il va faire tous ses efforts pour essayer de décoller, mais s'il décolle de 3 cm, il a déjà, c'est un bon poulet. Celui-là, on peut le mettre au barbecue, mais rien, il va se débattre, il va faire tous les efforts du monde, mais il ne va pas décoller. Alors que l'aigle se laisse porter par le vent, il déploie ses ailes et se laisse conduire. Et c'est ça la vie de l'esprit, c'est se laisser conduire par l'esprit. On n'a pas des efforts surhumains à faire, on a juste à entrer dans le courant d'air, j'ai envie de dire, dans le courant de l'air de l'esprit, pour se laisser porter, pour se laisser pousser, propulser dans nos vies. Et il peut faire des kilomètres comme ça, l'aigle. Alors, ne ressemblons pas à un tel poulet, mais plutôt à un aigle. L'Église ressemble souvent, il l'a dit, à un poulailler. Hein. Alors, laissons-nous porter par le souffle de l'Esprit. Profitons de ces 7 semaines pour justement dynamiser notre vie. Ce n'est pas 7 semaines et tout est compris. C'est 7 semaines comme un tremplin, comme un starting block où on va partir, se propulser et aller de l'avant dans cette vie. Oui, Monsieur le Président, j'arrête, je finis bientôt. J'en ai tellement à dire. Et je dirai ça, et je vais conclure après. La plénitude du Saint-Esprit, elle ressemble plutôt à une histoire d'amour qui a besoin d'être constamment ravivée, renouvelée et rafraîchie. J'ai besoin, comme les Éphésiens, des paroles, des gestes, des chants, de la prière des autres pour être rempli de l'Esprit. On ne peut pas être rempli simplement individuellement. Bien sûr qu'on peut, on est sauvé seul, on peut vivre seul dans son coin. Mais il manque une dimension qu'on a oubliée et la plus importante. C'est ce corps du Christ uni, rassemblé et qui vit au travers du mouvement des uns et des autres, au travers de l'édification d'une parole de l'un, d'une prière de l'autre, d'un regard, d'un geste, d'un mouvement. Et ça, nous en avons besoin. Et moi, j'en ai besoin. Parce que ma vie, elle est faite d'une foi personnelle, mais aussi d'une foi ensemble. Et j'aimerais vous encourager à cela. Et en conclusion, je reprends 3 questions que j'avais mises en introduction. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui ? C'est le titre de mon message. Qu'est-ce qu'il souhaiterait que nous comprenions? Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Quand je parle de faire, ce n'est pas entrer dans le faire, mais c'est ce petit pas quotidien pour que la vie de l'esprit puisse se développer, se mouvoir en nous. Et je donnerai trois réponses, de trois messages. La première, la foi est vraiment importante et primordiale dans cette vie de l'esprit. La deuxième, tenons ferme et utilisons toutes les armes de Dieu pour continuer à poursuivre ce chemin avec le Christ dans une vie portée par l'esprit. Et la troisième, laissons-nous remplir tout à nouveau. Amen. On peut prendre juste quelques secondes de silence, s'il vous plaît.